Radio G 101.5 FM. Oh yes, yes. Radio G 101.5 FM, émission Solidaire Monde. Bonsoir et bienvenue dans cette émission proposée et animée par le collectif Solidaire Monde. Collectif qui souhaite donner la parole à celles et ceux qui ont à cœur de faire vivre la solidarité sous toutes ses formes, près de chez eux, mais aussi en lien avec des populations plus éloignées. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir, dans le cadre de l'émission Solidaire Monde, un des cofondateurs de l'atelier d'édition La Marge. Parfois aujourd'hui, on aurait tendance à laisser croire que l'édition serait plus compliquée en raison de l'arrivée massive des différentes technologies qui supplanteraient l'existence de tout support papier. L'existence de votre atelier, que vous allez nous présenter au cours de l'émission, tente de prouver le contraire. Bienvenue dans ce studio à Simon. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Simon, dans ma présentation, j'ai fait allusion au cofondateur de cet atelier d'édition La Marge. J'ai cité qu'il y avait 5 personnes. Alors, comment est née cette idée de vous lancer dans une telle aventure? Parce que je crois que c'est une véritable aventure. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu cette aventure?
Donc en fait, on est parti d'une copine qui a voyagé en Argentine et qui a découvert les Cartonera. C'était des maisons d'édition qui s'étaient créées au moment de la crise économique et qui avaient décidé de payer un petit peu plus cher des recycleurs qui étaient dans les rues, payés pour aller amener les déchets dans les déchetteries. Ils ont payé un petit peu plus cher les meilleurs cartons et ils leur ont proposé de fabriquer ensemble des livres pour pouvoir aussi s'éditer, puisqu'évidemment c'était aussi la crise dans le milieu de l'édition. Donc bah, cette Cartonera-là a fait des petits un petit peu partout dans le monde hispanophone. C'est parti d'Argentine, je ne sais plus ce qui je l'ai dit.
Oui.
Et du coup, on a ramené l'idée en France, notre copine. Elle est venue ici, on a amené ça à notre manière. Donc les 5 cofondateurs ont ramené un petit peu ce qu'ils voulaient. Certains voulaient avoir un lieu vivant, un lieu d'échange. D'autres voulaient faire des expos. D'autres étaient à fond justement sur l'édition, d'autres sur la récup. Puis le mélange, ça a donné La Marge.
Et comment vous avez... Vous connaissiez d'avance alors pour faire ce groupe ou c'est comme ça?
Oui, effectivement, on était tous des copains de collège, de lycée, de fac, voire le collège et la fac.
Oui.
On s'est tous perdus de vue, retrouvés.
C'est ça. Et vous aviez déjà comme objectif d'essayer de réaliser quelque chose ensemble qui soit un peu à la marge, disons.
Je pense qu'on était déjà tous complètement à la marge, ouais. Après, au niveau des idées de faire un truc ensemble, pas forcément, non. Même peut-être pas du tout avec certains.
Ah, d'accord. D'accord.
Mais donc les choses se font ensemble, c'est très bien.
Hein. Oui. D'accord. Hein. Et aujourd'hui, quel est le nombre de personnes, pour continuer un petit peu l'aventure, il y a combien de personnes qui participent à cette aventure aujourd'hui?
Au niveau de l'asso, on a une vingtaine d'adhérents peut-être, et après, il y a toujours un petit réseau de 10 à 30 personnes qui sont passées une fois de temps en temps pour aider, qui reviennent plus ou moins régulièrement. C'est assez libre au niveau du fonctionnement, donc on quantifie pas tout.
Oui, alors justement, le fonctionnement, on dit c'est libre, ça veut dire que, pourtant, la marge, si j'ai bien saisi ce que j'ai pu prendre comme information, c'est quand même une formule associative.
Ouais, c'est tout à fait ça, ouais.
On est parti d'une association. Mais c'est libre quand même, alors est-ce que vous pouvez être plus précis?
Ouais, pour être plus clair, il n'y a pas besoin d'être adhérent pour venir chez nous, dans notre atelier, pour nous aider à fabriquer les livres, pour participer à un salon pour les vendre, pour proposer une expo, ça, il n'y a aucun souci, c'est ouvert à tout le monde, adhérent ou non.
Oui.
L'adhésion, elle est là pour le soutien un petit peu à l'asso,
oui,
éventuellement,
ouais.
Et pour essayer de s'inscrire un petit peu dans le mode de fonctionnement, puisque derrière, on est une association plutôt collégiale.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président dans l'association et que les décisions se prennent collectivement.
C'est-à-dire que c'est avec les personnes qui sont sur un projet, par exemple, avec
voilà,
les personnes qui sont intéressées. Là, vous faites
une
délibération.
On fait une réunion.
On
n'a pas besoin d'écrire qu'on a fait une commission spéciale pour ce projet.
C'est ça.
Ceux qui veulent faire, bah, ils y vont. Oui. Hein.
Donc on peut facilement vous rejoindre en fonction de ce qu'on a envie de faire et de voir
si ça... Ah oui, ça sera avec plaisir, hein, faut venir et puis... Oui,
On va aborder un peu plus cette particularité des ateliers tout à l'heure. Hein. Alors ce projet est local, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans le début de l'interview, il y a des résonances internationales. Et tout particulièrement avec l'Amérique latine, et je dirais tout particulièrement en Amérique latine, avec l'Argentine, puisque effectivement, je crois que c'est parti de Buenos Aires, cette idée-là. Alors, au niveau international, comment le lien réussit-il à se faire ?
Eh ben, on parlait tout à l'heure des nouvelles technologies.
Oui.
Eh ben, on a créé les réseaux sociaux. Je crois que c'est ce qui unit vraiment les cartonneras du monde entier. Oui. Il y a des groupes qui sont créés sur les Facebook pour pas les nommer, où il y a des échanges éventuellement de quoi qu'on fait un petit peu partout, des choses comme ça. Donc, on voit les cartonneras qui sont vivantes. Mmh. Éventuellement, il peut y avoir par ce biais-là également une communication entre nous. Et il y a des projets communs qui peuvent naître. Donc, ça arrive plus souvent, évidemment, quand on a la même langue. Mais ça peut arriver aussi avec des langues différentes. Et nous, on a monté, par exemple, une revue internationale. On a sorti un seul numéro, évidemment, hein, vu le travail que ça représente.
Oui.
Où on a regroupé dedans 27 auteurs de 8 pays différents. On a traduit tous les francophones en espagnol, tous les hispanophones en français. Et cette revue-là, on l'a fait voyager, puisqu'on a proposé en plus le PDF à disposition de toutes les cartonneras.
Oui.
Donc elle est sortie en France, mais aussi en Belgique, et aussi en Uruguay, au Brésil, en Argentine, évidemment. Et...
Alors, l'appellation cartonnera, c'est un peu spécifique, ça.
C'est un peu l'édition en carton, quoi.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça.
Précisément, ouais. C'est le côté récup, on récupère le carton, on en fait quelque chose derrière.
Et donc là, oui, sur la matière première, on va venir un peu plus dessus à ce niveau-là. Mais ça veut dire que par rapport au cartonnera, si on reste sur ce principe-là, hein, c'est ça qui fait effectivement le lien au niveau international.
Ouais, c'est ce qui va
et
unir.
Et pour créer le lien, vous avez fabriqué, enfin vous avez
le point commun entre toutes les cartonneras, c'est le carton clairement.
Oui.
Après les textes, il peut y avoir de la poésie, il peut y avoir des livres vachement travaillés, tout sérigraphiés avec un tarif exorbitant, comme il peut y avoir du livre de prolo fait rapidement à la main et vendu dans la rue, voire donné, distribué directement dans les quartiers ou des choses comme ça. On peut tout trouver.
Alors, vous avez fait le choix, là, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous avez fait le choix de l'association. Et pourtant, quand on aurait pu penser qu'il y avait, pour que ça soit plus pérenne ou plus une édition qui puisse se concevoir autrement, faire un autre choix. Le choix de l'association, pour vous, c'est important ?
Ouais, je pense. Après, je parle surtout en mon nom à ce moment-là.
Oui,
mais,
oui.
Je pense que ça nous fait du bien de ne pas avoir d'aliénation au pognon,
oui.
Pour parler un peu crûment, et
oui.
Ça nous permet d'avoir libre choix dans ce qu'on publie.
Oui.
Donc de ne pas se poser la question de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va se vendre. Bah non, ça on s'en fout, ce qu'on veut c'est proposer un texte de qualité.
Oui.
Après, s'il se vend, c'est tant mieux, c'est même l'objectif.
Oui, oui.
Mais pour nous, ce qu'il y a avant tout, c'est diffuser des textes qu'on aime, des choses qui nous tiennent à cœur.
Oui.
Je pense que si on avait un problème d'argent derrière, on serait obligé de se payer, bah, on va peut-être sortir des choses qui nous plairaient un peu moins, tant que ça se vend.
Donc ça veut dire que tout ce qui se fait au niveau de l'atelier participatif, la marge, c'est absolument tout le travail est assuré par des bénévoles.
Ouais, on n'a que des bénévoles et à l'occasion quelques stagiaires qui se sont pointés.
Alors que quelle forme de stagiaire c'est
Souvent des stagiaires dans l'édition. Non, en service civique, on n'a pas fait non plus. On n'a jamais eu de salariés, on n'a pas les moyens financiers ni les moyens au niveau du temps. On ne peut pas gérer ça.
Oui, c'est ça. Oui, après, oui.
Ouais, c'est
chronophage. Alors quand vous dites des stagiaires, c'est...
On a eu des stagiaires de tout âge. Hein. On a eu des collégiennes qui sont venues pour une journée. On a eu des...
D'accord.
Puis après, on a eu des BTS, communication ou édition ou des choses comme ça. Enfin,
oui, c'est ça.
Donc, à l'occasion, quand on avait le temps de s'en occuper.
Au fait, c'est un lieu, je dirais presque, c'est un lieu d'accueil pour tous ceux qui s'intéressent à l'édition. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Ah oui, ça peut. Après, pour l'édition, un petit peu en marche quand même.
Oui, oui. Mais alors, ceux qui viennent, ils viennent pour rencontrer une autre forme de fonctionnement.
C'est souvent ça l'idée. Ils ont fait un stage souvent dans le milieu de l'édition. Ça ne leur a pas forcément plu. Ils veulent voir ce qui se fait à côté. Ils viennent nous voir.
Oui, c'est ça. Ce sont des personnes qui souhaitent un petit peu trouver une autre forme et puis peut-être moins enfermées, comme vous disiez tout à l'heure.
Souvent, elles sont intéressées par le rapport également à l'image, vu qu'on fait des expos dans notre atelier, que nos textes sont toujours illustrés sur les couvertures, puisque toutes les couvertures sont faites à la main.
Oui.
Tout est peint à la main, etc. Donc, il y a un aspect graphique aussi qui est assez présent dans nos bouquins, qu'on n'a pas forcément dans les milieux de l'édition un peu plus standard, où on a juste le texte, y compris sur la couverture.
Oui, c'est ça.
Donc, souvent. Je caricature un peu.
Donc là, on voit bien là, quel est l'esprit hein, qui prédomine dans votre atelier participatif La Marge. Eh bien, après ces quelques précisions, on va peut-être faire, non seulement on va peut-être, mais on va faire une pause musicale. Hein, et justement, puisqu'on parle de La Marge, eh bien, ça sera Attention à la Marge, groupe réalisé par un groupe local, les Vilains Clowns.
Ça te tourne à la tête si tu rentres dedans. Faut faire attention à la marche. 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 Et tu sais pas lire ou quoi?
C'était donc Attention à la Marge comme pause musicale du groupe local Les Vilains Clowns. Alors Simon, pour ce qui est du fonctionnement proprement dit, vous souhaitez, me semble-t-il, participer à la sauvegarde de la planète en utilisant un moyen particulier qui est le carton hein, collecté et donc vous essayez de vous fournir de matières premières, évidemment à base de papier et de carton. Alors, la question que je me pose, c'est quelle est votre manière de faire pour récupérer ce carton qui est votre matière première ou ce papier? Est-ce que c'est que le carton d'ailleurs ou
c'est surtout le carton, c'est ouais, surtout principalement. Le carton. Ouais.
Et comment, alors comment ça se passe concrètement hein, pour collecter le carton? Est-ce que vous vous adressez à des entreprises qui jettent du carton? Est-ce que ce sont des particuliers? Alors comment ça se passe tout ça?
Ben, y a plusieurs façons de faire. Quand on manque, on regarde le mardi soir, le jour du ramassage des poubelles, du tri sélectif, et là, il y a tous les grands magasins qui ont sorti des cartons. Donc, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. On l'a mis sur le site, et c'est vrai, hein, réellement. Donc, on vient avec le camion, on fait le tour du boulevard Foch, et hop, c'est terminé. On en a pour un an.
Et est-ce que vous ramassez les cartons? Est-ce qu'il y a des cartons particuliers que vous...
Oui, on les trie, donc on prend une épaisseur qui nous convient, si possible, oui. Des cartons à peu près propres.
Oui, c'est ça, voilà.
Évidemment, et puis après, j'exagère un petit peu, mais à l'occasion, on va derrière certains magasins qu'on connaît aussi, où on sait qu'il y a beaucoup de cartons régulièrement.
Oui.
Chacun, on peut en ramener du boulot, il y a toujours des cartons là où on bosse.
D'accord.
Donc il y a quand même aussi un ramassage à peu près régulier et des entreprises sont prêtes toujours à donner des cartons.
Oui.
Sinon on récupère du tissu éventuellement et on a tous des chutes de tissu qui nous servent à mettre sur la tranche de nos bouquins. Et on avait aussi fait le tour des grands magasins à Paris de tissu
oui.
Où on avait récupéré des sacs entiers de chutes.
Donc vous trouvez facilement la matière première.
Ouais, pour ce qui est récup, ça va. Hein. Tout ce qui va à la poubelle, il suffit de faire un appel et on en a même trop.
Ah oui, c'est ça. Et là, vous êtes obligé de trier, donc vous êtes obligé
dans
de stocker.
Dans ces cas-là, je vais à la déchetterie moi-même ou alors on stocke s'ils sont bons.
C'est ça. Mais vous êtes obligé de stocker alors.
Oui.
Dans ces cas-là.
Ah oui, oui, on a toujours.
Donc vous avez un local pour stocker.
On a un local où est à Angers derrière la gare où on stocke nos cartons, les cartons pas découpés, les cartons pré-découpés,
oui.
Les livres finis, des chutes de tissus, on a un petit peu de tout.
Alors vous avez besoin de les travailler, les cartons, quand même, avant de pouvoir les utiliser, non, les découper, mais est-ce qu'il y a besoin parfois de les remettre un petit peu en état?
Non, non, s'ils sont vraiment trop abîmés, on les garde pas.
Vous les gardez pas. Et puis, l'épaisseur du carton, est-ce que ça a une importance?
Ça peut avoir une importance pour que le livre soit bien maniable derrière.
Oui.
Et après, au niveau du côté un petit peu récup, on a choisi aussi de faire des formats de bouquins qui sont à partir d'une feuille A4 divisée. Donc, on n'a que du A4, du A5, du A6.
Oui.
Ce qui nous permet d'éviter d'avoir des chutes de carton, mais surtout aussi des chutes de papier, puisque le papier, on l'achète en revanche,
oui.
Pour tout ce qui est bouquin en tout cas. Pour les flyers, on arrive à utiliser aussi des papiers qui ont été imprimés que d'un côté et qu'on récupère. Enfin... Après, on s'arrange toujours, mais...
Oui, parce que je vois que vous avez apporté, là, dans le studio, vous avez apporté effectivement des livres. On voit qu'effectivement, les cartons, les livres sont de dimensions tout à fait différentes. C'est pas standard, on peut pas exactement parler.
Mais c'est une division du A4, donc si on coupe 2 A4, on fait 2 bouquins.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Ou alors 4
mais
petits
toujours,
bouquins.
Mais la base, c'est toujours le A4.
Ouais, ça nous permet d'avoir
zéro
chute de papier, en fait. Donc on jette pas de papier, jamais.
Donc oui, c'est ça. Vous ne jetez pas de papier, vous ne gaspillez pas de papier, quoi.
Pas trop.
C'est pour ça que je disais que c'était un petit peu quand même la philosophie de votre atelier participatif, ça. Alors la collecte et la collecte auprès de particuliers. Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous avez des lieux où les gens peuvent vous déposer? Vous avez votre local, mais est-ce que les gens peuvent venir déposer?
On n'a pas fait spécialement, on n'a pas eu besoin.
Et vous n'avez pas le besoin, vous n'avez pas ce besoin-là.
Ouais, on n'a pas développé cette partie-là, on n'a pas eu grand besoin. Donc...
Alors, bon, bah, d'accord, bon, ça veut dire qu'on peut aussi, est-ce que c'est l'économie circulaire, on peut peut-être rappeler que effectivement ça fait partie de ce qu'on peut mettre en place, réutiliser ce qui n'est pas utilisé par d'autres pour réussir à fabriquer quelque chose.
Puis ça correspond à notre logique aussi de débrouille en même temps, donc...
Oui, parce qu'il y a la logique, effectivement, je faisais allusion à la planète, là où
c'est
on
ça,
a besoin tous de faire prendre quelques décisions personnelles, mais en même temps, effectivement, c'est aussi une certaine forme de débrouille, de voir un petit peu comment on peut réaliser quelque chose.
C'est l'idée, oui.
Ouais. Alors, pour revenir plus précisément à votre projet, je note qu'il y a le mot « atelier » et le mot « participatif ». Atelier, alors donc, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ces deux mots dans le fonctionnement de votre association? Atelier, pourquoi le mot atelier?
Ah, le mot atelier, c'est, je pense que c'est le côté artisanal à 100%, le côté do it yourself, on fait les choses nous-mêmes, avec ce qu'on a, comme on peut, mais on les fait, pour reprendre des citations de copains. Et après, pour le côté participatif, c'est parce qu'on fait ensemble, en plus.
C'est ça.
Et qu'on a la volonté de faire ensemble et pas de faire chacun dans son coin quelque chose, on considère... que c'est ensemble qu'on pouvait faire avancer ce projet.
Alors, donc pour réaliser ensemble, est-ce que vous vous donnez des temps en commun, hein? Je crois qu'il y a une ouverture.
Oui, on a une ouverture au public tous les jeudis soirs après le boulot, quoi. Donc entre 5h30 et 8h30,
oui.
C'est-à-dire en ce moment même.
Oui, c'est ça.
Précisément.
Voilà.
Donc j'ai séché, hein, évidemment.
Oui, oui. Mais les autres sont au travail.
Les autres sont au travail, voilà,
ouais.
Après le travail.
Oui.
Donc c'est des temps d'ouverture qui nous permettent de faire avancer un petit peu et aussi de faire découvrir le lieu. Il faut garder aussi un petit peu de temps. Donc c'est pas toujours facile aussi d'avoir une ouverture au public, c'est assez contraignant.
En ce moment-là, puisque c'est le moment de la...
Donc en ce moment, ils sont en train de relier des livres.
Ils sont en train de relier des livres. Il y a d'autres personnes que des personnes habituelles.
Je crois qu'il y avait des curieux quand je suis passé, mais...
C'est ça, il y a des gens qui viennent voir.
Il y a des gens qui viennent voir, qui viennent découvrir, qui regardent les bouquins, qui s'assoient, qui peignent une couverture, ou alors qui vont se mettre à relier des livres, qui vont apprendre la technique de reliure japonaise auprès de nous.
Parce que c'est un côté aussi, parce que le fait d'apprendre, c'est-à-dire que c'est un côté transmission de savoir.
Toujours un petit peu, ouais.
Oui.
Notre petit savoir, en tout cas, il est à disposition de tout le monde.
C'est ça. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut voir un petit peu comment ça se passe, qui voudrait relier lui-même des livres,
par exemple. Quelqu'un qui a un projet de se faire son livre tout seul chez lui, avec son texte à lui, bah, il peut tout à fait venir chez nous pour apprendre la technique.
Ouais.
Ça, il n'y a aucun souci.
Je me demande, bon, il y a l'atelier. Bon, apparemment, il y a une ambiance qui est assez sympathique.
Oui, oui, en général, ça va.
Ça va, ça se passe bien. Hein. Et je voulais savoir, il y a donc cet atelier, bon ça j'ai compris, mais je voulais savoir aussi, est-ce que par exemple vous intervenez Est-ce que vous faites des interventions en dehors de cet atelier?
Oui, ça nous arrive aussi d'intervenir auprès de différentes structures qui nous font venir pour faire découvrir un petit peu nos méthodes. Donc soit on travaille à partir d'un texte de notre catalogue, soit on vient en complément éventuellement d'un atelier d'écriture qui a été fait préalablement. Et nous, on fait la fabrication du bouquin auprès des jeunes ou des plus vieux, puisqu'on s'est retrouvé aussi en maison de retraite pour faire des ateliers de fabrication. On a fait aussi des lieux comme le CHU d'Angers, ou alors les maisons de quartier, les bibliothèques, on l'imagine bien. Donc voilà, on propose aussi à l'occasion des animations auprès de structures extérieures.
Donc ça, je pense que c'est intéressant, je dis ça parce que ce que vous venez de développer là, c'est-à-dire que vous intervenez, mais ça peut être en lien avec une autre activité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un atelier d'écriture qui se met en place, et vous pouvez intervenir dans la structure pour, effectivement, récupérer ce qui a été fait dans l'atelier d'écriture.
Et puis compléter le travail et donner un objet au produit fini, quoi.
Et alors, dans quelle structure vous intervenez en particulier?
On a souvent eu des médiathèques, évidemment. Ça. Après, comme je disais, maison de quartier, on a fait un projet avec ATD Quart-Monde au tout début de l'asso, puisqu'on existe depuis 5 ans. Et sinon, une maison de retraite une fois, après je sais plus. On en fait aussi au moment dans des festivals, parfois sur les salons aussi.
Et vous faites un festival tous les ans, je crois.
Ah non, c'était la première année cette année.
Cette année, c'était la
première année. On a fêté nos 5 ans brillamment.
J'ai regardé ça, j'ai trouvé ça un article dans la presse, là où effectivement vous aviez là fait. Il y avait eu un festival et qui a eu un certain succès.
Ah bah on était tout à fait ravis, on a eu plus de monde qu'on pensait.
Ah oui, donc c'est quand même.
Même le soleil était là.
Même le soleil était là, oui. Bon, eh bien, nous allons faire une deuxième pause musicale. Et cette fois-ci, nous allons écouter « Cumbia sobre el mar ». Alors, on va venir un peu plus sûr. On vient d'écouter Cumbia sobre el mar. Hein. Alors, maintenant, on va venir un peu plus sur quelque chose qui est quand même votre cœur, le cœur de votre atelier, qui est effectivement le livre, hein, l'édition d'un livre. Alors, récemment, vous avez édité un livre qui s'appelle « La maison où tout le monde passe ». Vous nous l'avez apporté, on l'a sous les yeux. Alors, évidemment, les auditrices et auditeurs ne le voient pas à la radio. Hein. Pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes nécessaires pour construire cet objet magnifique qu'est le livre ? Comment est-ce que ça se passe un peu dans votre atelier ?
Une fois qu'on a reçu le texte, hein,
oui,
qu'il a été corrigé, oui. Qu'on a revu la typo, tout ce qu'on veut, bref, qu'on s'est mis d'accord sur un objet fini... Oui. Et bien après on l'imprime dans notre atelier, puisque la première chose qu'on a acheté c'était un photocopieur pour être autonome. Et une fois qu'il est imprimé, on a de la découpe du texte en deux, comme j'expliquais, hein, que le format A5 c'est une division par deux du A4. Oui. Ensuite il va s'agir de illustrer la couverture. Donc après ça c'est les petites mains qui l'auront fait en amont ou pas. Quand je dis les petites mains, c'est les copains, hein, bien sûr.
Oui.
Et les passants. Ensuite, c'est surtout pour dire que moi je dessine pas. Ensuite, il va s'agir de la reliure à proprement parler. Donc, pour la plupart de nos textes, on a une reliure japonaise. Donc, c'est de la couture. Donc, il s'agit de percer ensuite le texte et puis de le coudre, tout simplement. Donc, après, c'est les petites étapes qu'on apprend chez nous.
Donc, le livre est constitué d'une partie de tissu.
C'est du texte qui est pris en sandwich entre deux cartons.
Entre deux cartons.
Un qui va être illustré la couverture, un qui n'est pas illustré plutôt le dos.
Relié par du tissu.
Relié par du tissu pour cacher un petit peu la tranche du texte et cousu avec des fils colorés. Ouais.
Et de couleurs assez chatoyantes.
Hein. On essaye que ça flash un
oui,
peu.
Oui, dans ce qu'on a sous les yeux, nous, c'est des couleurs quand même assez chatoyantes. Hein.
En général, nos bouquins se dénotent par rapport aux autres quand on fait des salons à ce niveau-là.
Donc vous avez véritablement le statut d'éditeur.
Oui, ouais, on est reconnu en tant que tel, même on fait partie du collectif d'éditeurs des Pays de la Loire.
Oui.
Je leur fais de la pub au passage.
Et vous éditez combien de livres à peu près ? Quel rythme vous
pouvez ? Nous, on sort 5 à 6 livres par an. Donc,
c'est ça.
On doit avoir pas loin de 25 livres à notre catalogue en ce moment.
Et vos livres, on peut les trouver ? On peut les acheter ?
Et nos livres, on peut les acheter soit en ligne sur notre site, soit à la marge, évidemment. Oui. Soit on a du dépôt dans diverses librairies. À Angers, en ce moment, on est à l'Erio, par exemple, à Itinérance. On est au Renard Killy à Chalonnes pour faire du local. Après, on peut nous trouver aussi dans différents endroits différents. On est au oui. Disquaire Exit Music aussi à Angers.
Oui.
On est au Café de la Mairie de la Dagonière.
Oui.
Après, je ne vais pas lister tout, mais on a mis aussi du dépôt un petit peu dans d'autres communes.
D'accord.
Et d'autres villes, évidemment, en France ou ailleurs.
Oui.
À Liège, par exemple.
Ça veut dire, et pour avoir un ordre d'idée, un livre comme on a sous les yeux, là, vous y donnez quel prix
vous demandez... Tous nos livres sont à 6 euros.
Tous les livres sont
à 6 euros. Ouais, on a fait prix unique, puisque c'est un objet unique, alors.
Oui, oui, d'accord. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut se procurer un livre, il peut aller dans
les différents, n'importe où, voilà, ça
dans les différents lieux que vous avez cités. Mmh. Et puis vous pouvez rappeler votre site pour.
Et sur notre site, c'est atelierlamarge.fr.
D'accord. Hein. Atelierlamarge.fr. Donc si on veut en avoir, si on veut avoir un peu plus d'éléments. Hein. Autre chose, c'est que bon, vous dites. Vous éditez, mais ça veut dire que votre association, elle a besoin quand même de financement. Alors comment vous réussissez à avoir un peu de financement dans votre association ?
Eh bien, étonnamment, ce qui finance la plus grosse partie, on va dire, de ce qu'on a à payer, bah, c'est les livres. Réellement, c'est les ventes de livres quand on participe à des salons, quand on participe à des festivals, quand on fait de la vente en dépôt, la vente directe également sur chaque sortie de livre dans notre atelier.
Oui.
Après, il y a une part également où ça va être les ateliers qu'on propose dans les diverses structures qui sont payantes. Et ce qui nous permet également de nous en sortir, parce que c'est le loyer qui nous coûte le plus cher, évidemment. Hein. Je parlais d'aliénation, le loyer c'est quelque chose à ce niveau-là. On n'aurait pas décidé d'avoir un atelier, on n'aurait pas de problème du tout financièrement.
D'accord, oui.
Le livre en lui-même, on est tranquille au niveau du budget. Le carton n'est pas cher.
Alors, je vois que l'horloge tourne. Hein, et donc, pour cette fin d'émission, eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message auprès des auditrices et auditeurs hein, concernant votre projet, votre aventure ?
Ben, faut pas hésiter à venir nous voir soit dans notre atelier, soit quand on se promène. Et on est, par exemple, ce week-end, ce dimanche, au Pont de Cé, aux Galeries Recyclettes. Salut Laetitia, et puis on sera la semaine prochaine à La Roche-sur-Yon sur un festival de micro-édition qui s'appelle le festival Paplard. Et sinon, le plus simple, c'est de nous contacter si vous avez des projets ou quoi que ce soit.
D'accord. Merci beaucoup, Simon, d'être passé au studio de Radio G.
Merci pour l'invitation. Hein.
C'est la fin de notre émission. Merci à vous, Simon, bien évidemment, d'avoir accepté notre invitation et puis d'être venu nous parler de votre expérience associative très particulière et très originale. L'atelier participatif d'édition La Marge. Aujourd'hui, dans l'émission, solidairement, nous avions Jacques à la technique et puis Rémi à l'animation. Vous pouvez la réécouter en podcast sur Radio G101.5 FM. Auditrices et auditeurs, nous nous retrouverons dans 15 jours, le jeudi 12 décembre, à 19h, pour une nouvelle émission. Bonne soirée à toutes.